7h44, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. 750 milliards d'euros pour l'Europe. Qu'y a-t-il concrètement derrière ce chiffre astronomique? On en parle avec votre invité François Geffrier.
Bonjour Nicolas Véron.
Bonjour.
Vous êtes économiste au Centre de réflexion européen Bruegel et au Peterson Institute for International Economics à Washington. Ça, c'est aux États-Unis. Parlons de l'Europe. Ça y est, cette fois, les milliards annoncés, ce n'est plus un projet, c'est du concret. On parle là d'un sommet historique. On a entendu ce mot. Ça veut dire que le cours de l'histoire a changé aujourd'hui. Vous êtes d'accord ?
Je crois que l'adjectif n'est pas excessif puisque c'est un engagement de la part de l'Union européenne et de ses États membres, qui est sans précédent par son ampleur, son ambition, et aussi la rapidité avec laquelle il a été négocié. Alors c'est pas forcément comme ça qu'on le vit au jour le jour, puisque le sommet a été très long, exceptionnellement long. Mais quand on pense que la crise du coronavirus a commencé vraiment en mars, on arrive à cet engagement qui est un engagement sur beaucoup d'années, hein, sur 7 ans, en quelques mois de négociation, c'est une réactivité, une capacité d'action qui est effectivement sans précédent et fait passer l'Europe d'une certaine manière à la vitesse supérieure.
Alors je vais donner les grandes masses, hein, 750 milliards d'euros au total. Parmi ces 750, il y a 390 milliards d'euros sous forme de subventions, c'est-à-dire que les pays qui recevront cet argent ne devront pas le rembourser. Dans tout ça, la France va toucher combien et est-ce qu'on sait déjà à quoi elle va attribuer cet argent ?
Alors d'abord, on ne sait pas exactement quel va être le montant que chaque pays va toucher, puisque ça dépendra des projets qui sont soumis. Cet argent, il va financer des projets de réforme, de modernisation, d'investissement, notamment pour avoir une meilleure éducation, une économie plus verte, des meilleures dépenses de santé, etc. Donc ça va être tiré par les projets. Évidemment, les projets, ils vont être présentés au fur et à mesure, en fonction des recommandations que présente l'Union européenne
et son
organe central, la Commission. Maintenant, la France va recevoir très peu d'argent là-dedans. Ça va être un pays qui va être plutôt observateur des projets qui vont être financés dans d'autres pays qui en ont plus besoin. Pourquoi ? Parce que la France est un pays assez riche et qui a été touché relativement de manière plus légère par la crise du coronavirus que beaucoup de ses voisins européens. Et donc la France, comme l'Allemagne d'ailleurs, ont choisi de promouvoir un projet commun, mais dont ils ne vont pas bénéficier directement. En revanche, ils en bénéficieront beaucoup indirectement, puisque le calcul, naturellement, c'est que ce qui rend l'Europe plus forte rend aussi la France et l'Allemagne plus fortes.
Mais on dit tout de même que, par exemple, sur les 100 milliards d'euros que va constituer le plan de relance français présenté dans quelques semaines, sur ces 100 milliards d'euros, 40% viendront de l'Europe. Est-ce que ça, c'est de l'argent qui nous est donné ? Est-ce que c'est une dette qu'on va devoir rembourser ? Vous voyez, ça va dans quelle case ?
Alors, je ne sais pas exactement comment ce chiffre a été constitué, j'ai pas lu la communication correspondante, mais ce qui est clair, c'est que les pays d'Europe centrale et orientale, les pays d'Europe du Sud qui ont été très touchés à la fois par la crise de la zone euro et la crise du coronavirus, vont toucher en proportion beaucoup plus que la France. Donc quand on fait les calculs, 40 milliards, ça me paraît beaucoup, mais il faudrait voir les chiffres en détail.
Donc je repose ma question sur la case dans laquelle ça va, parce qu'on avait entendu le président lui-même parler d'une dette Covid, les 460 milliards d'euros que la France a déjà débloqués, notamment sur le chômage partiel, sur les plans de soutien à différentes filières. Est-ce qu'il y aura une dette européenne, une dette française ? Est-ce que tout ça, ce sera dans très longtemps ? Est-ce qu'on a déjà une idée ?
Alors effectivement, la dette Covid dont on a parlé, et toutes les mesures de relance qui ont été engagées par la France, c'est d'abord et avant tout une dette nationale qui devra être remboursée par la France, comme toujours, par des emprunts nouveaux, le produit de la fiscalité, etc. Donc ça, pas de changement de ce côté-là. Au niveau européen, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une dette très importante de l'Union européenne. Ça, c'est sans précédent. C'est l'Union européenne, et pas la France, qui va devoir rembourser cette dette. Et une des grandes questions qui reste à régler après le sommet, c'est effectivement les modalités de ce remboursement. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des ressources pour l'Union européenne, ce que le jargon de Bruxelles appelle des ressources propres, puisque l'accord, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est de ne pas rembourser l'emprunt qui vient d'être décidé par un nouvel emprunt. Donc il va falloir le rembourser en espèces sonnantes et trébuchantes, il va falloir affecter des ressources à ça. Ce sera pas forcément...
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui on s'est engagé à...
C'est-à-dire que ces ressources de remboursement seront pas données par des lignes individuelles de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas ou d'autres, mais peut-être plutôt par des nouvelles formes de financement de l'Union européenne, par exemple des taxes écologiques, des taxes sur les activités numériques. Il y a beaucoup de discussions qui vont se déployer au cours des prochaines années, puisque les dirigeants ont fait un choix qui pour ma part me paraît raisonnable, qui est de ne pas finaliser cet aspect-là du plan, puisqu'il y a pas mal d'années avant le remboursement.
Nicolas Véron, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a décidé de dépenser de l'argent, mais on n'a pas encore décidé de le rembourser, en tout cas pas encore comment ?
Oui, mais c'est ce que font les gouvernements tout le temps. Hein. La France, lorsqu'elle emprunte sur les marchés financiers, n'a pas un plan de financement de ses remboursements futurs. Elle a une signature, en revanche. Elle a un crédit. Et c'est pour ça que les investisseurs acceptent de financer la dette française sans savoir exactement d'où viendra l'argent pour le rembourser à l'avenir.
C'est l'image de marque qui compte.
À plus forte raison lorsque la dette est une dette à long terme qui va pas être remboursée du jour au lendemain. Et donc ce qu'on voit émerger, c'est la même forme de crédit, cette fois-ci au niveau de l'Union européenne, dans lesquelles les marchés, c'est en tout cas ce qu'on attend à la suite de ces discussions, vont faire confiance à l'Union européenne sur sa capacité à rembourser à l'avenir, même si les détails du financement de ce remboursement ne sont pas encore finalisés. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait quand on emprunte. On ne sait pas toujours exactement sur quelle base on va rembourser, mais on a besoin d'avoir la confiance des investisseurs, le crédit. Et ce qui est très important politiquement et financièrement, c'est le fait que l'Union européenne, de plus en plus, acquiert un crédit qui lui est propre grâce à l'engagement de ses États membres.
En quelques mots, est-ce qu'on est sûr que l'Union européenne va emprunter à des taux meilleurs que l'Allemagne ou la France, par exemple, qui ont régulièrement des taux négatifs ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle va emprunter à des taux meilleurs que les pays de l'Union européenne qui sont plus fragiles financièrement, plus endettés, comme l'Italie, l'Espagne. Et si on fait le calcul sur l'ensemble de l'Union européenne, collectivement pour les États membres, l'emprunt au niveau de l'Union européenne est une bonne affaire. Je pense que ce sera le cas également pour la France. C'est moins évident pour l'Allemagne, qui est le pays qui a les meilleures conditions de financement en Europe. Et c'est pour ça que c'est une très forte déclaration d'engagement, de générosité et de solidarité de la part de l'Allemagne de soutenir ce plan, ce qui n'était pas du tout évident il y a encore 2 ou 3 mois.
On y voit beaucoup plus clair avec vous. Merci Nicolas Véron, économiste au Centre de réflexion européen Bruegel et au Peterson Institute for International Economics à Washington, invité d'Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.